C'était Kendra Morris dans cette émission spéciale à la source, CFM Radio et Radio Terre ensemble pour une résidence depuis les Halles de la Cartoucherie de Toulouse qui nous accueille pour 3 jours, donc ce soir, demain et après-demain. On parlait Aligo et café, produits locaux en première partie de cette émission. Là, on va parler de l'école de cuisine La Source qui est hébergée dans cette grande halle de la Cartoucherie à Toulouse. On parlera aussi de tout ce qui est proposé dans le cadre de programmes solidaires, sociaux, là avec la salariée de la Cartoucherie. Laurie Bernal, vous êtes chargée de médiation et d'action sociale. Bonjour. Alors, il faut un micro.
Bonjour.
C'était une épicerie Cop-Cop à la base aussi, et des repas à prix libre le mercredi midi. C'est tout un tas de choses qui sont proposées pour les habitants, pour le commun aussi, les Halles de la Cartoucherie.
Oui, tout à fait. Initialement, il y avait l'épicerie Cop-Cop, donc il y a une épicerie qui a été portée par Festa, l'acteur de la restauration donc, qui gère la place du marché des Halles de la Cartoucherie. Initialement, le projet d'épicerie, c'était de pouvoir intégrer des habitantes et habitants du quartier au sein de la gouvernance. Donc, c'est eux qui ont construit le projet. Et le projet a un petit peu évolué, humainement et financièrement, vers plutôt ce qu'on a appelé aujourd'hui Cop-Cop, tout simplement, parce que comme vous pouvez le constater, si vous venez au hall de la Cartoucherie, à l'entrée à droite, aujourd'hui il n'y a plus d'épicerie, mais Cop-Cop s'est transformé, donc aujourd'hui c'est géré à 100% par les habitantes et habitants du quartier, qui sont bénévoles de cette structure, et l'objectif c'est d'utiliser la cuisine comme un outil social et solidaire, par d'un côté des ateliers avec des structures sociales, comme le centre d'accueil d'urgence pour femmes qui est sur le quartier, donc l'UCRM, on travaille également avec Carpe Diem, qui est une structure avec des personnes en situation de handicap. Donc lors de ces ateliers, on va utiliser vraiment la cuisine comme un outil pour créer du lien social. Mais vous pouvez également nous retrouver à partir de janvier, tous les mercredis et vendredis midi, à l'entrée des Halles, où on vend des repas à prix libre. L'objectif, c'était vraiment d'ouvrir l'offre de la restauration pour avoir une diversité de prix et pouvoir rendre accessible cette offre-là. Donc les personnes peuvent venir et donner 10 centimes comme donner 8 euros. L'objectif, c'est que tout le monde soit à sa place et que tout le monde puisse manger et se sentir accueilli.
Alors, vous êtes chargée de la médiation sociale, hein, Lisa Echen l'a précisé. Ça, c'est une vocation quand même de la Cartoucherie. On n'est pas uniquement dans un volet commercial. Hein. Il y a beaucoup de restaurants qui sont présents et ils sont nos invités aussi dans ce programme-là. Mais il y a effectivement, et à travers la source, on va en parler, mais il y a effectivement une grosse dimension sociale. Vous parliez du restaurant à prix libre hein, ou des repas à prix libre. Comment ça fonctionne? À qui ça s'adresse? Parce que l'initiative des petites cantines, par exemple, à Lyon, hein, qui a essaimé partout en France, montre que finalement, ce n'est pas forcément des gens déshérités qui font le premier pas pour venir manger dans ces restaurants. Voilà, comment on désinhibe un petit peu la clientèle, comment on fait comprendre aussi le concept de cette restauration à prix libre, et puis et voilà comment ça fonctionne très concrètement.
En fait, Cop-Cop, c'est un petit peu les Halles en plus petit, je dirais. Dans le sens où peut-être qu'il y a des gens qui sont venus parler du modèle économique des Halles et je vous invite à vous renseigner sur son fonctionnement parce que l'objectif aux Halles de la Cartoucherie, c'est qu'il y ait des personnes qui payent pour les autres. Dans le sens où si vous venez vous restaurer aujourd'hui sur la place du marché, indirectement, ça va servir à financer les projets sociaux à l'échelle des Halles, à accueillir des structures associatives. Et Cop-Cop, c'est un peu pareil. Finalement, on a besoin des gens qui ont les moyens de venir se restaurer et de payer plus pour à côté pouvoir accueillir des public en situation de précarité et où aujourd'hui on a essentiellement des publics quand même étudiants et étudiantes pour qui ça peut être compliqué de se restaurer. Et donc comment ça fonctionne? Vous nous trouvez donc à l'accueil, on en parle plutôt aux résidents, aux habitants, habitantes, mais c'est plutôt les publics en situation de précarité qu'on va aller chercher, et eux on va aller chercher par les structures sociales du territoire, donc que ce soit le centre social à Scott, qui est positionné sur le territoire et qui eux vont travailler avec ces publics en précarité, avec les écoles étudiantes, donc plutôt les BDE, mais également le centre d'accueil d'urgence comme je parlais tout à l'heure, où vous pouvez retrouver Linky, qui est une association qui fait de la distribution alimentaire tous les lundis au 500, qui est la grand-mère des Halles de la Cartoucherie. Et donc nous, c'est là en fait où on va aller leur parler, faire ce qu'on appelle de l'aller vers dans le travail social, c'est-à-dire leur dire qu'il y a une offre qui peut être accessible pour eux, mais on va énormément s'appuyer sur les travailleurs sociaux et les structures sociales.
Et est-ce qu'en cuisine, on a par exemple d'anciens élèves de La Source qui, après avoir appris à cuisiner, viennent au restaurant, comment on pourrait l'appeler d'ailleurs, restaurant solidaire,
On appelle cuisine solidaire.
Cuisine solidaire, c'est ça. Est-ce que vous avez d'anciens élèves?
Alors, on n'a pas d'anciens élèves, mais par contre, on a eu des bénéficiaires qui sont venus, comme je vous disais, on fait de la vente à prix libre, mais on fait également des ateliers d'insertion, ce qu'on va appeler. Et donc, des publics qui sont venus par une structure sociale, donc par le centre social Ascot, par exemple, où ils sont venus sur une semaine, ou un IME, donc c'est un institut médico-éducatif, où ils sont venus donc sur un temps plutôt construit par une structure sociale et qui, en fait, sont revenus pour être bénévoles au sein de la cuisine. Et c'est là où on voit la richesse quand le bénéficiaire devient bénévole et acteur du projet.
À vos côtés, Laurie, une ancienne élève, puisque je parlais de... Alors, ancienne, pas tout à fait. Hein. La partie théorique a été digérée. Hein, et maintenant, il reste une grosse partie pratique. Eva, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment ça se passe à la source? Racontez-nous, Isabelle Tirbois, qui est la directrice, tout à l'heure, voilà, détaillera évidemment tout le fonctionnement de cette école alternative. Mais voilà, quelques impressions comme ça d'une élève, donc, non pas ancienne, comme je le disais, mais allez, en cours de route.
En cours de formation, oui, pas totalement fini. Mais écoutez, à la source, il y a à Toulouse, en tout cas, plusieurs promotions en même temps. Moi, je fais partie encore de la promotion, on appelle des comptes. Donc des personnes qui ont la possibilité de faire cette formation en 5 mois intensifs au lieu d'un an en alternance. Une promotion qui est autour de 9 personnes pour mon cas, de personnes qui ont entre 22 et 60 ans, qui viennent de Toulouse, qui viennent aussi d'ailleurs, parce que moi je viens de Marseille, je suis venue spécialement pour cette formation par exemple. Et à la source, on apprend dans ce format-là tous les jours, peut-être parfois 3 apprentissages par jour, donc de manière très intensive, auprès de professionnels qui ont été chefs, qui le sont encore, qui ont chacune leur profil, leur parcours, leur spécialité, pour obtenir les bases et même plus, parce qu'on nous pousse un petit peu plus que ça, des techniques et compétences commis de cuisine. Pour chacun et chacune des personnes qui composent la promotion, essayer d'explorer notre parcours professionnel, notre évolution professionnelle, voilà, au fur et à mesure des mois, pour ensuite tester ses compétences pendant 2 mois en stage.
L'école de cuisine La Source, qui est donc dans les halles de la cartoucherie, qui est un tiers lieu. J'imagine qu'il y a un grand intérêt de partager cet espace avec les professionnels. C'est Isabelle Tirbois, la directrice de La Source, qui va me répondre.
Oui, donc on a intégré les halles de la cartoucherie en même temps que leur ouverture, donc en septembre 2023. Et c'est assez riche d'avoir un centre de formation dans un centre vraiment réel. C'est la restauration, une trentaine de stands de restauration. Nos élèves, ils vont partager les mêmes vestiaires que les restaurateurs. Ils vont vivre les mêmes contraintes quand le restaurant est vide, quand on attend les clients, il pleut. C'est la même chose que la restauration en centre-ville. Et c'est un centre de formation qui a l'avantage d'être... je ne trouve plus mes mots...
Qui a l'avantage aussi, surtout, d'être alternatif, hein, quand même. Hein.
Oui.
C'est un petit peu la philosophie de cette école, qui, on le rappelle, a été créée par Laurent Perlès
et Alexandre Panza.
Quoi, un peu avant le confinement, d'ailleurs.
Exactement. Hein, ils ont ouvert en 2019.
Ils avaient eu le nez creux, là. Hein.
Oui. Donc, la première ouverture, ça a été à Paris, à la Cité Fertile, à Pantin. Puis ils ont ouvert à Bordeaux en mai 2023 et puis ensuite à Toulouse. Et une école alternative, pourquoi ? Parce que on avait envie de mettre en avant la cuisine végétale, de vraiment changer ce monde de la restauration où, si on veut changer les choses, il faut changer en fait les apprentissages qui sont donnés en cuisine. Il faut mettre de la fermentation parce que c'est un moyen de conserver les aliments, de donner des nouveaux goûts, de changer ce monde de la restauration qui ne peut pas être que gastronomique, qui ne peut pas être que à destination de personnes qui ont des moyens financiers élevés. On peut faire de la restauration qui est qualitative, qui s'adresse à des cantines solidaires, qui s'adresse à des cuisines de quartier, qui s'adresse à tout type de restauration.
Avec des bons produits.
Ah, exactement, avec des bons produits. Donc là, dans l'école, on a à cœur de mettre en valeur les produits locaux et on s'oblige à respecter certaines contraintes, donc comme un pourcentage de produits bio, c'est obligatoire pour nous dans l'école. Et du coup, nos apprenants, ils vont avoir l'habitude, dès le début en fait, dès l'école, d'utiliser des produits qui sont qualitatifs.
Laurent Perlès, dans une précédente interview qu'il nous avait accordée, disait que au moment où il a eu l'idée avec Alexandre Panza de créer La Source, il trouvait que les apprentissages en matière d'hôtellerie et de restauration étaient un peu poussiéreux, qu'il fallait moderniser tout ça, y compris dans le rapport aussi, dans les rapports sociaux, hein, en cuisine. On a évidemment beaucoup parlé ces dernières années de violence en cuisine. Jusqu'où tout ça, ça va dans votre démarche? Comment les apprentissages sont calqués, développés par rapport à tout ça? En quoi finalement cette perspective est alternative, disons, à ce qui est proposé dans les lycées hôteliers, les CAP, les bacs pro, les mentions, etc.?
Oui, complètement. Donc là, dans notre centre de formation, ça va être de l'apprentissage davantage pratique. Sur une semaine typique, ils vont avoir une demi-journée en théorie et le reste du temps en pratique, dont 2 jours au restaurant d'application. Et même dans les temps pratiques, en fait, le formateur, il va avoir un positionnement plutôt à l'horizontale par rapport aux apprenants, qui sont des adultes, qui ont vécu des expériences professionnelles précédemment, donc qui ont parfois eu des positionnements dans leur entreprise qui étaient hiérarchiques ou pas hiérarchiques, mais il faut mettre un peu tout le monde à niveau, ils sont tous là pour débuter la cuisine, et le formateur il va se mettre autour d'une très grande table, que vous allez pouvoir voir si vous venez dans les halles de la cartoucherie.
Nous y sommes.
Donc exactement, au rez-de-chaussée, donc un immense plan de travail, immense quand même pas, mais où voilà, une dizaine d'apprenants peuvent se mettre autour de la même table pour observer les techniques, puis les reproduire, et on va favoriser en fait tout ce qui va être apprentissage par l'erreur, favoriser la créativité, donc on va permettre aux gens de faire et de refaire pour bien maîtriser les techniques, et en mettant davantage en avant les techniques qui sont végétales. Donc par exemple, sur le restaurant d'application, on va d'abord réfléchir au menu qui va être le menu végétarien, c'est le contraire de la restauration classique en fait. Et ensuite, s'il y a eu du poisson ou de la viande comme thématique apprise dans la semaine, il peut y avoir de la viande ou du poisson au restaurant d'application.
Alors, voilà. L'espace de cuisine qui est de plein pied, hein, quand on rentre dans la cartoucherie, on le voit immédiatement. Ce matin, dépôt trop miné, on a pu voir que les élèves étaient déjà à l'œuvre. C'était peut-être votre cas. Eva, est-ce que ce matin, vous étiez en cuisine avec Sandra Ben-Sliman pour faire des flans? Ce matin, c'était l'atelier flans.
Alors, l'atelier flans, je l'ai déjà eu. Mais non, moi, j'ai fini les cours vendredi dernier. Je pars en stage la semaine prochaine.
Ah oui, j'écoute rien. Ouais.
Mais j'ai pu vivre d'être à 8h du matin en atelier flan toute la journée avec Sandra, bien évidemment, et puis expérimenter ces moments de pratique et de théorie alternés que j'ai trouvé très riches, pour développer toutes nos compétences, déconstruire tout ce qu'on a pu apprendre, parce qu'on est des adultes, donc on cuisine depuis longtemps, et en fait on apprend la cuisine traditionnelle française tout en l'adaptant à l'actualité de notre monde et de la manière de manger aujourd'hui.
Alors justement, ça c'est une question qui nous intéresse, les profils des élèves, hein, on va évidemment la voir chaque jour en plateau dans cette émission. C'est pas le profil classique, Isabelle Thierbois, c'est plutôt des gens qui sont éventuellement en reconversion, alors déjà qui sont plus âgés que les lycéens ou ceux qui composent, hein, les effectifs des lycées hôteliers, des bacs pro, etc. Là, il est pas rare d'avoir un ancien ingénieur, un ancien étudiant. Qu'est-ce que vous faisiez, Eva, par exemple, auparavant?
Moi, j'étais responsable à la coopération internationale dans une institution culturelle à Marseille. Voilà, et donc je m'occupais de levée de fonds, de gestion de projet, de coopération européenne notamment, de gestion de projet européen. Donc j'ai choisi cette voie de la cuisine pour le compléter avec le milieu culturel à moyen long terme plus tard. C'est une reconversion en partie, une évolution professionnelle on va dire plutôt.
C'est la majorité des cas, Isabelle, l'exemple qu'on a là avec Eva.
Oui, la moyenne d'âge qu'on a c'est 26 ans. Majoritairement ce sont des femmes. À plus de 60% on a des promos de femmes et du coup 40% d'hommes quand même, pour compléter. Ce sont des publics qui sont pas mal hétérogènes. Sur les apprentis, donc on a une majorité de formation qui se fait en apprentissage sur une période de 1 année, avec 1 semaine à l'école, 2 semaines en entreprise en alternance, sur toute 1 année. Et ensuite, pour les formations continues, on a des profils un peu plus âgés, donc des personnes qui ont toutes eu un premier métier et qui vont chercher à se reconvertir et trouver du sens dans leur travail. Donc les profils, par exemple, d'anciens ingénieurs, ce sont des personnes qui ont eu un premier métier très technique, et qui ont pu être éloignés d'un métier où on travaille avec ses mains, on peut exprimer sa créativité. Et puis on va aussi avoir d'autres personnes, je dirais que c'est très large, donc à chaque fois je pense dans ma tête à des exemples de personnes qui me reviennent de ton groupe, par exemple des personnes qui étaient dans le maraîchage, donc du coup qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, ils ont appris à travailler le vivant, à faire pousser des légumes ou étaient dans l'élevage, et puis maintenant ils souhaitent mettre en valeur, valoriser leurs produits, aller jusqu'au bout, jusqu'à l'assiette, jusqu'à être capable de faire plaisir à des gens grâce à ce qu'ils auront été capables de transformer et de mettre en avant.
Métiers qui ont été, c'est tout le paradoxe, hein, qui ont été rendus, disons, attirants et sexy par la télévision au cours de ces 15 dernières années, mais qui malgré tout sont quand même restent des métiers difficiles, avec des coupures, avec une promiscuité qui entraîne en général un certain nombre d'abus. On peut se poser la question, qu'est-ce qui vous a attiré, vous ? Parce que c'est précisément au moment où ces métiers-là sont décriés dans leur travers que toute une génération aussi d'apprentis, disons, émerge presque comme une génération spontanée. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Eva, à pousser les portes de la cuisine de la source, hein, évidemment.
Moi, je ne suis qu'un exemple, c'est mon parcours personnel, mais ce que j'ai pu entendre, c'est qu'on a été aussi plusieurs, il y a de nombreuses années, à être poussés à faire des longues études au lieu d'aller dans la cuisine parce que c'est trop difficile, parce que c'est justement des métiers qui sont un peu décriés, que nos parents avaient peur de cette violence en cuisine potentielle dont on entend parler depuis longtemps. Et en fait, ces premiers amours de faire plaisir aux gens, de travailler des belles assiettes, de créer du lien aussi entre les gens. Je pense qu'on a tous et toutes cette envie dans cette promotion de créer du lien, de faire se rencontrer les gens. Dans notre actualité aujourd'hui, on est plusieurs à avoir ressenti ce besoin de reprendre le sens. Et le sens, il n'est pas que intellectuel, mais il est aussi sensoriel, voilà, de prendre du plaisir à partager des belles et des bonnes choses bien faites. Moi, ça a été aussi en lien avec la culture et ce dont on parlait juste avant, arriver à comprendre comment on peut aussi manger sainement, manger des bons produits, tout en étant dans une équité d'accès à ces produits-là. Et que c'est finalement un sujet assez politique qui, moi, m'intéressait. Et j'ai retrouvé cette identité-là dans la source que je ne trouvais pas du tout dans un apprentissage d'un CAP classique en lycée professionnel. Voilà.
Laurie, je me tourne à nouveau vers vous en tant que chargé de la médiation sociale. Est-ce que le projet de la source a vocation à irriguer les autres projets de la cartoucherie ? On peut imaginer des rendez-vous autour de l'éducation alimentaire. Comment vous phosphorez autour de tout ça ? Est-ce qu'éventuellement il y a des pistes de réflexion ? Est-ce que ça fait partie, vous, de vos affectations, de ce qu'éventuellement vous avez sur la table au quotidien ? Comment vous, voilà, quel est le degré de porosité, je dirais, entre votre fonction et la vocation de la source, Laurie ? il va falloir quand même dire quelque chose. Non, mais comment disons l'écosystème, comment fonctionne l'écosystème avec la source, Laurie, comment vous travaillez de concert ensemble ? La question peut s'adresser à Isabelle aussi. Hein.
On va dire que moi, dans les actions que je mets en place, je vais pas forcément faire appel à la source pour créer du lien ou créer du projet. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Il y a plus eu effectivement sur COPCOP, j'ai pas terminé tout à l'heure, mais il y a eu des étudiants qui sont venus déjà en cuisine avec nos bénévoles, donc qui effectivement, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit sur le fait de déconstruire des pratiques, parce que la majorité de nos bénévoles sont retraités, donc il y a des choses qui sont ancrées dans l'alimentation, dans la façon de cuisiner, et donc d'amener un peu des forces vives et nouvelles qui t'apprennent autre chose. Ça fait aussi du bien et de voir qu'on peut manger végétarien aussi, c'est vrai que ça a changé les habitudes. Par contre, ça peut être dans un sens contraire où moi effectivement je travaille à Cosmopolis, donc c'est la structure qui coordonne l'ensemble de la cartoucherie sur les missions sociales. Donc j'ai pu déjà travailler avec la source parce qu'ils ont embauché, donc c'est vrai qu'on, là on parle beaucoup plus de l'aspect écologique mais aussi l'aspect social et humain, et donc il y avait une apprentie qui était en situation de surdité, et donc la source a fait appel à moi pour savoir comment accueillir au mieux cet étudiant, comment former le corps enseignant, comment adapter l'environnement de travail, comment même ils ont été encore plus loin de comment former les étudiants et étudiantes à accueillir cette personne. Et donc c'est là où on profite de cet écosystème qu'est lié à la cartoucherie, qu'on fait des ponts entre nos actions, parce qu'effectivement moi c'est des actions que je mène tout au long de l'année avec une association qui s'appelle La Passerelle, qui est dans nos locaux, donc un jour par semaine de 9h à 17h, et qui travaille avec des personnes en surdité. Donc c'est des gens qui sont travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés dans la locomotion, ergothérapeute, et donc c'est là où on a fait un pont entre nos activités, de dire en fait il y a une association qu'on accueille depuis 2 ans et qui pourront vous accueillir et vous accompagner et vous former sur comment accueillir cet étudiant. Donc ça va être ces ponts là qu'on va pouvoir faire entre nos activités. Voilà.
Isabelle, vous voulez peut-être rajouter quelque chose?
Tout à fait. Donc, on a pu accueillir une personne sourde dans notre formation et on est très heureux d'avoir pu le réaliser dans les conditions réalistes, mais le mieux possible. Et c'est vrai que la première personne à laquelle j'ai posé des questions, c'était Laurie. Voilà, la passerelle surdité cécité, j'avais pas forcément le contact direct, etc. Et je savais pas que c'était possible, en fait, de faire des formations auprès des étudiants. Et oui, ça nous a facilité l'intégration, même si c'est un défi de tous les jours, bien sûr. Mais donc oui, le rôle de Laurie, il est très important dans la médiation sociale. Ensuite, par rapport à COPCOP, on a pu mettre en place plusieurs fois des ateliers de bénévolat où nos étudiants, comme le disait Laurie, viennent en fait passer des demi-journées dans la petite cuisine de COPCOP et se mettent à disposition pour cuisiner les invendus, les produits qui n'ont pas été valorisés d'autre part, en faisant appel du coup aux apprentissages qu'ils ont pu avoir dans l'école et faire un petit peu de créativité, d'atelier créatif avec des personnes retraitées ou non, mais pour voilà, favoriser l'apprentissage collaboratif.
Des cours de cuisine, donc assez innovants, hein, je pense aux cuisines végétaliennes, végétariennes, à la source. Donc on parle d'un projet social. Est-ce que aussi, puisque les métiers de la cuisine, ça peut être assez violent, est-ce que vous mettez en place des ateliers pour favoriser la parole, ou vous mettez en place des séances de sophrologie pour que tout le monde soit hyper serein avant un cours de cuisine? Comment ça se passe
Alors déjà, on va embaucher des personnes qui sont bienveillantes et on va parler... Déjà, ça, je pense que c'est important. Et on va parler du cadre bienveillant qu'on souhaite mettre en place dans nos cours. Donc, nos formateurs, déjà, ils appliquent la politique de l'école. Je pense que c'est un premier point. Ensuite, on va avoir, surtout là, on est en train de mettre en place une deuxième année, donc avec un niveau cuisinier. On avait le niveau commis de cuisine et on met en place le niveau cuisinier. Et on va mettre en place un cours qui s'appelle le management bienveillant, dans lequel, en fait, on va également parler des violences sexuelles et sexistes, qui sont, en fait, un sujet dans la restauration. Donc, c'est pas agréable de mettre en place ce sujet-là, mais en fait, il faut en parler. Et d'une part, expliciter les termes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne se fait pas dans le contexte du travail, ça fait déjà un premier point d'information. Il y a d'autres choses qui vont être mises en place au cours de l'année 2026 par Alexandre Panza et Laurent Perles pour qu'on ait un process plus global porté par la source globalement.
Si on s'intéresse, disons, à l'autre partie de l'iceberg, c'est-à-dire les restaurateurs, comment la certification, disons, la source, même si c'est une école qui est encore jeune, comment elle est perçue par le métier, entre guillemets, puisque vous allez partir, Eva, vous allez partir en stage, hein, en alternance. Voilà, quand vous frappez aux portes d'un restaurant, quand vous dites c'est la source, alors déjà, est-ce que la plupart des restaurateurs connaissent la philosophie de cette école, et puis comment elle est perçue?
Alors, la plupart des restaurateurs, je ne le sais pas encore. Cependant, je sais qu'il y a une génération de restaurateurs, de jeunes restaurateurs qui ouvrent des restaurants, et notamment à Marseille, qui ont la trentaine, quarantaine, et qui peuvent connaître la source Paris, Bordeaux ou Toulouse déjà, et la qualité des enseignements. Et quand ils arrivent face à des apprenants, apprenantes qui cherchent un stage et qui disent avoir eu une approche globale de la cuisine, de transformation des pratiques, de pratique du végétal, de diversité culturelle aussi dans la cuisine, parce qu'on parle des techniques traditionnelles de la cuisine française, mais il y a aujourd'hui tellement d'influences culturelles qu'il faut aussi les connaître, qu'on a été formés, on a eu une demi-journée de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles en cuisine, comment on peut se rappeler à la loi, comment trouver des producteurs locaux, bio ou dans une agriculture raisonnée. Les restaurateurs sont intéressés d'avoir des personnes compétentes sur ces sujets-là à l'intérieur de leur cuisine.
Et puisqu'il nous reste 3 minutes et qu'à la cartoucherie, on a même une petite musique d'ambiance en arrière-fond sonore. Votre plat préféré, je dis ça pour mettre les pieds dans le plat, justement.
Allez, Isabelle, une directrice a forcément un plat préféré, surtout au restaurant d'application de la source.
C'est ça. Alors, faut-il dire un plat du restaurant d'application, hein, le risotto du restaurant d'application de la source, oui, bien sûr.
Avec du riz local.
Du riz qu'on peut trouver dans l'Aude, hein, à Marseillette, hein, on en fait dans l'Aude, donc à moins d'une centaine de kilomètres de Toulouse. Eva, Laurie, plat préféré, là encore, c'est estampillé la source, hein, attention, sinon Isabelle va taper sur les,
vous tapez
sur les doigts.
Que vous aimez le plus faire ou partager?
C'est vrai que j'aurais dit la source, dans le
pas
sens
la croquette
où...
d'aligot de Bobine.
Eh bien j'y viens parce que je suis avéronaise. J'aurais dit la source dans le sens où c'est des plats qui sont accessibles et qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et aussi, en plus, si on a envie d'avoir un endroit calme et posé, c'est l'endroit que je conseille. Mais sinon, je vous conseille aussi les farceaux de Bobine, qui est un plat à base de blettes et qui est très bon et peu connu, voilà, en termes de restauration plutôt rapide.
Eva ?
Moi, je vais faire un peu d'autopromotion, mais il n'y aurait pas possibilité de se... la semaine dernière, on a fait un pop-up, donc 3 jours où on a tenu ensemble restaurant d'application avec les 9 étudiants en autonomie après 3 mois de formation. Et on a eu des plats à base de blettes, un curry végétal, un blinis acidulé au pamplemousse et au fenouil brisé. Plein de bonnes choses. Donc, ça serait trop dur de choisir, mais je dirais de venir à la source et faire des retours aux étudiants parce que ça nous sert beaucoup. Nicolas, à toi.
Ah bah peut-être. Moi, c'est vrai que la croquette d'aligo de Bobine, pour rester dans le thème cartoucherie aujourd'hui, c'est quand même un must-have, comme on dit, dans la langue de Shakespeare.
Bobine Aligo, qu'on recevait aujourd'hui. On parlait aussi torréfaction avec le café et le thé a cappella dans cette émission aujourd'hui, qu'on partageait aussi avec vous trois, Isabelle Thirbois, la directrice de La Source. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Eva Riccio, élève en cours d'apprentissage, on peut dire très bientôt ancienne élève, future restauratrice. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et la chargée de médiation et d'action sociale, Laurie Bernal, un grand merci.
Merci.
On se retrouve, Nicolas, demain, même heure. CFM Radio, Radio Terre, depuis les Halles de la Cartoucherie de Toulouse, dans le cadre de cette résidence, avec Lara. Merci Nicolas, demain.
Merci, à demain, Yves.
Et musique pour finir, Aurélien.